VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. La police américaine de nouveau sur la sellette. Une vidéo montrant les derniers moments d'un Africain américain abattu par un policier dans le Minnesota est devenue virale sur Internet. C'est tout juste après une affaire similaire en Louisiane, réveillant le spectre des brutalités policières. Jacques Aristide.
La vidéo, filmée avec un téléphone portable par une femme identifiée comme Lavish Reynolds, a été diffusée en direct sur Facebook. On y entend la femme dire que son petit ami s'en est allé juste comme ça et d'ajouter « Vous lui avez tiré 4 balles dessus, monsieur ». À côté d'elle, dans une voiture, on peut voir son compagnon agonisant, Philando Castile, un employé d'une cantine scolaire de 32 ans, atteint par balle et son t-shirt maculé de sang. La femme explique que le policier, qui procédait à un contrôle routier, a tiré sur son ami alors qu'il cherchait ses papiers d'identité. Selon elle, Philando Castile avait prévenu le policier qu'il possédait une arme pour laquelle il avait un permis. La police a confirmé pour sa part la mort d'un homme tard hier à Falcon Heights, dans le Minnesota. Cette affaire intervient après un autre homicide. Alton Sterling, un Africain-Américain de 37 ans, a été abattu par la police avant-hier à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. Les images et une vidéo de cet incident ont été largement diffusées sur le net. Les autorités américaines ont ouvert une enquête fédérale.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Ghana, au moins 9 personnes tuées hier soir dans une bousculade pendant la célébration de la fin du Ramadan à Kumasi, dans le centre du pays. Le point avec Idriss Fall.
6 femmes et 3 hommes ont été tués, selon Nouridine Hamidan, conseiller municipal à Asokore Mampong, un quartier de Kumasi. 6 personnes ont également été blessées, dont une grièvement. Un centre communautaire de la ville accueillait la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan. Moubarak Mohamed Muntaka, membre local du Parlement, précise que la rencontre devait se terminer au plus tard à 21h parce que dans le passé, de telles célébrations ont souvent été marquées par des bagarres entre des jeunes de quartiers rivaux. Un groupe estimé à 300 personnes s'est dirigé vers la salle et des heurts auraient éclaté. Les gens ont tenté de sortir dans la précipitation. Certains disent que les lumières étaient allumées, d'autres affirment que le compteur électrique a projeté des étincelles, ce qui a semé la panique. Les autorités ont convoqué une réunion de sécurité pour tenter de déterminer les causes précises de l'incident.
Cour pénale internationale de La Haye, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et du leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, notamment pour crimes contre l'humanité, a repris hier devant la CPI. Les juges ont décidé de ne plus retransmettre les audiences en direct sur l'Internet. 13 témoins ont déposé en 6 mois. Et puis, dernier jour de la tournée en Afrique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le chef de gouvernement de l'État hébreu a reçu le soutien de l'Éthiopie pour l'octroi à Israël d'un poste d'observateur auprès de l'Union africaine. Le Premier ministre indien Narendra Modi entame aujourd'hui une tournée en Afrique. À son programme, les pays suivants, Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie et Kenya. Que représente cette visite dans les relations entre l'Inde et l'Afrique? John Lennon s'est entretenu avec Nyankoro Yesamake, ambassadeur du Mali à New Delhi.
C'est une visite qui est la bienvenue et il est temps que les actions de l'Inde atteignent le niveau de leur ambition. Les relations indo-africaines aujourd'hui sont en train de se rapprocher à un niveau d'engagement direct entre l'Inde et l'Afrique. Aujourd'hui, la présence du Premier ministre indien sur le continent nous rassure que l'esprit de la déclaration faite à New Delhi récemment en octobre 2015 a atteint un niveau d'exécution.
Alors, qu'est-ce que l'Inde peut offrir à l'Afrique?
Bon, l'Inde peut offrir à l'Afrique d'abord à différents niveaux. Au niveau bilatéral, les différents pays africains sont en train de tisser un partenariat stratégique avec l'Inde, surtout au niveau des échanges commerciaux. Au niveau régional aussi, il faut s'attendre à des lignes de crédit indiennes pour soutenir les entrepreneurs indiens s'installer en Afrique, mais aussi au niveau africain, dans les différentes plateformes multilatérales, notamment aux Nations Unies et sur d'autres plateformes. Il y a des soutiens mutuels entre l'Inde et l'Afrique.
Niankoro Yesamake, ambassadeur du Mali en Inde.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique centrale, politique en RDC, les choses s'accélèrent du côté de l'opposition. Ce jeudi, Moïse Katumbi et Étienne Tshisekedi ont annoncé leur accord pour l'élection présidentielle à venir. Les détails avec Nicolas Pineau.
Oui, c'est sur son compte Twitter que l'ancien gouverneur du Katanga a dévoilé une photo en compagnie d'Étienne Tshisekedi depuis Bruxelles, uni pour le bien de la RDC et l'avènement de la démocratie en cette année électorale, a déclaré M. Katumbi. Le leader de l'UDPS a donc reçu celui qui affirme toujours être candidat du G7 pour la prochaine présidentielle en RDC. Officiellement, il n'a pas été question de candidature entre les deux hommes qui ambitionnent toujours de succéder à Joseph Kabila, dont le mandat s'achève en décembre prochain et qui ne peut se représenter en vertu de la constitution actuelle. Plus tôt cette semaine, Moïse Katumbi avait annoncé son retour prochain en RDC, en dépit des ennuis judiciaires auxquels il fait face depuis quelque temps. Inculpé pour recrutement de mercenaires, le milliardaire congolais a été autorisé à aller se faire soigner en Europe. Il a récemment été condamné à 3 ans de prison pour spoliation immobilière et à une amende $1 million.
Crise au Burundi, nouveau report du dialogue visant à mettre fin aux troubles dans le pays. Dialogue relancé en mai après plusieurs mois de blocage. Les discussions reprendront mardi prochain à Arusha en Tanzanie au lieu de ce samedi. Et toujours concernant le Burundi, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme basée à New York, accuse les agents du service national de renseignement SNR, les services secrets, qui dépendent directement du président burundais Pierre Nkurunziza, de pratiquer la torture contre les opposants présumés. Génocide de 1994 au Rwanda, la justice française a condamné à la réclusion à perpétuité mercredi à Paris 2 anciens bourgmestres rwandais accusés d'avoir participé au massacre. Une sentence qui fait suite à de nombreuses condamnations prononcées dans le monde entier pour des faits liés à cette tragédie. Le rôle de la France a été très critiqué lors du génocide. Pour une réaction de Kigali, Eric Manirakiza a joint dans la capitale rwandaise le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, le docteur Jean Damascène Bizimana.
C'est une réaction de joie et en même temps une réaction de justice parce que ces deux messieurs ont abusé de leurs fonctions. Ils étaient maires, c'est-à-dire qu'ils étaient bourgmestres. Ils étaient détenteurs d'autorité. Ils ont eu un rôle de participation et d'organisation des massacres et du génocide dans la commune qu'ils dirigeaient. Ils se sont attribués le rôle d'organisation des massacres et en même temps de fourniture d'armes et d'organisation des miliciens, puisqu'ils se sont aussi du Rwanda en espérant bénéficier d'un asile aisé et pacifique en France. Et il est très important qu'ils soient reconnus coupables d'organisation et de planification du génocide, même en dehors du Rwanda. Deuxième élément, c'est pour les victimes rescapées, ils attendaient que cette justice soit rendue. Donc c'est très important que ce procès soit fait, et d'autant plus que ça se fait dans un pays comme la France qui, dans les années passées, n'avait pas franchi ce pas de faire des procès, de parvenir aussi à des sanctions et à des jugements exemplaires, comme ce fut le cas.
Pour vous, est-ce un dossier qui ramène la confiance entre la justice rwandaise et la justice française?
C'est plutôt un procès qui concerne des individus qui sont reconnus coupables. Et nous souhaitons que, évidemment, la justice française poursuive ce pas. L'année dernière, au mois d'octobre, la BNCCA a bénéficié des non-lieux, alors que Mnishaka, c'était le grand criminel que nous connaissons ici dans le pays, qui a un rôle dans le génocide, mais a collaboré avec l'ancien préfet de Kigali, le colonel Tarcisse Nzaro, dans la planification du génocide auprès de l'église Sainte-Famille et du centre pastoral Saint-Paul. Et il y avait des preuves évidentes que le tribunal international pour le Rwanda avait réuni. Mais malgré tout, la justice française a écarté les poursuites contre Mnishaka. Nous n'oublions pas cela. Et nous n'oublions pas non plus qu'il y a d'autres criminels, comme le colonel Serbouga, comme Stanislas Moname et autres, qui sont en France. Les médecins Guamouki Eugène, comme Sostel Mouniemana, qui ont commis le génocide à Boutaré, qui ne sont pas poursuivis, et bien d'autres criminels. Mais nous souhaitons que d'autres dossiers puissent aussi parvenir au résultat au même chemin.
Jean Damascène Bizimana à Kigali. Et pour terminer l'Euro 2016 de football, la France fait face à l'Allemagne ce soir en demi-finale à Marseille. Le vainqueur du match affrontera le Portugal, l'autre finaliste qui a éliminé le pays de Galles hier. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. voaoutre.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.